Merci d'être avec nous sur RFI. Bonjour, il est 9h temps universel, 11h à Paris et Roubaix, 4h du matin à Quito.
Charlotte Hydrac.
Dans ce journal, les tout derniers préparatifs en Équateur pour le second tour de la présidentielle ce dimanche entre deux candidats aux lignes opposées, le sortant Daniel Noboa et l'opposante de gauche Luisa González. La priorité, c'est la sécurité. Un bol d'air pour les consommateurs américains et les géants de la tech aussi après l'annonce des États-Unis d'exempter de droits de douane les smartphones, ordinateurs et autres produits électroniques. Dans ce journal aussi, le tourisme à quel prix ? À Madagascar, un projet d'hôtel divise sur l'île paradisiaque de Nosy Sakatia. Et puis on sera sur la ligne de départ du Paris-Roubaix, la mythique course cycliste, top départ dans une dizaine de minutes. Mais d'abord en Ukraine, la ville de Soumy, au nord-est, touchée par une frappe de missile russe aujourd'hui. Il y a quelques minutes maintenant, le président Volodymyr Zelensky a fait état de dizaines de morts et de blessés à Soumy, sans plus de précision à ce stade. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Une partie de l'Équateur placée sous état d'urgence ce dimanche, en ce jour de vote pour le second tour donc de l'élection présidentielle. Les bureaux doivent ouvrir à midi temps universel. Le scrutin s'annonce serré, il oppose deux figures aux lignes opposées, le président sortant Daniel Noboa et la candidate de gauche Luisa González. Pour les Équatoriens, la priorité c'est la sécurité. Le pays affiche le pire taux d'homicide du continent sud-américain, des violences liées au trafic de drogue et aux gangs. Reportage de notre envoyé spécial Raphaël Morand à Guayaquil.
Javier Moreira est travailleur social. Il accueille dans cette maison de la banlieue populaire de Guayaquil une dizaine de jeunes qui ont dû fuir leur quartier d'origine, Socio Vivienda, lorsque la guerre entre deux factions rivales d'un gang du narcotrafic a fait 22 morts en une seule journée. Evandro Moreno fait partie de ces déplacés.
Nous avons dû quitter le quartier après le massacre du 6 mars. Nous sommes partis le 7 au matin car la violence était vraiment insupportable.
Les organisations de droits de l'homme chiffrent à plus d'une centaine le nombre de familles, souvent afro-descendantes, qui ont quitté ce quartier par peur des fusillades, des extorsions ou par crainte que leurs enfants soient enrôlés de force dans des gangs. Mais une fois sortis du quartier, difficile de recommencer sa vie à cause du stigmate qui pèse sur ces familles.
On nous considère tous comme violents. C'est pesant d'être discriminé, de venir d'un quartier où il n'y a pas de transport, pas d'école et où on ne trouve pas de travail. Et une fois sortis du quartier, personne ne veut nous louer un logement car nous venons de Socio Vivienda.
Les organisations de défense des droits de l'homme attendent du nouveau gouvernement une reconnaissance du statut de déplacé et une aide au logement. Il y aurait des milliers de familles dans cette situation en Équateur. De retour de Guayaquil, Raphaël Morand, RFI.
Et l'armée israélienne affirme avoir visé des combattants du Hamas après la frappe contre un hôpital dans la bande de Gaza la nuit dernière. L'hôpital Al-Arlim, c'est à Gazaville. Pas de victimes signalées à ce stade, mais les urgences et l'accueil ont été détruits. Le bâtiment avait été évacué juste avant le bombardement. En pleine guerre commerciale avec la Chine, Washington a lâché du lest sur les produits high-tech, ordinateurs, smartphones et autres produits électroniques, exemptés des droits de douane astronomiques imposés par les États-Unis à Pékin, plus 145%. Alors pourquoi cet infléchissement de Washington? Selon l'économiste Pascal Delima, Donald Trump s'adresse d'abord aux consommateurs américains.
Les smartphones, les ordinateurs, les écrans, les clés USB, ce sont des produits omniprésents dans la vie des ménages américains. Ah, le problème, c'est que sans ces exemptions, le consommateur américain aurait vu une hausse des prix importante, de 10 à 20% sur ces produits, et là tout de suite, quoi, pas dans un an. Bah, économiquement, ça aurait été une baisse de pouvoir d'achat, et surtout un frein à l'équipement numérique. Ça, c'est un premier point. Et puis, pareil pour plus spécifiquement les géants de la tech. Il y a en Chine des multinationales américaines qui réexportent des composants technologiques vers les États-Unis. Et pas que des composants technologiques, des produits finis également. C'est un signal stratégique, je dirais, une tactique d'apaisement, ouvrir une porte à la négociation tout en gardant une pression maximale. Plutôt un test ou un rééquilibrage tactique comme il le fait depuis le début.
L'économiste Pascal Delima avec Agnieszka Kumor. Et après le revirement de Donald Trump cette semaine sur les surtaxes ramenées au taux plancher de 10%, sauf pour la Chine, ce revirement donc montre qu'il y a un espace de négociation, c'est ce que dit le ministre français de l'économie. Mais il ne faut pas crier victoire, tempère Éric Lombard. C'est à la mi-journée tout à l'heure qu'on attend les résultats au Gabon après la présidentielle d'hier à 13h30, heure de Brazzaville, de Libreville, pardon, midi et demi, temps universel. C'est ce qu'a promis le ministère de l'Intérieur qui a déjà fait état d'un taux de participation de 87%. On y reviendra bien sûr des publications, des chiffres compilés. À Madagascar, c'est un petit coin de paradis naturel surnommé l'île aux orchidées, Nosy Sakatia. 1 000 000 d'habitants environ, c'est dans le nord-ouest du pays. Il y a près de 10 ans, une petite partie de cette île a été louée par l'État à une société privée pour qu'elle y développe le tourisme. Un moyen, selon les autorités, d'offrir des emplois à la population locale. Mais une partie des habitants craint de perdre les terres ancestrales et s'oppose donc au projet Guilhem Fabry.
C'est la réalisation de mesures topographiques en fin de semaine dernière qui a ravivé l'inquiétude des habitants de Nosy Sakatia. Ils redoutent que la société privée malgache Green Madaland détruise une partie des terres qu'ils occupent depuis plusieurs générations. Félicia Mevazara vit sur l'île avec toute sa famille.
Nous sommes en plein droit parce que nous avons notre habitation, nos terres, la rizière. Tous les habitants de l'île de Sakatia vivent de la pêche, l'agriculture et... Si cette société Green Madaland arrive à implanter un hôtel, nous allons tout perdre.
Le collectif Tani pour la défense des terres malgaches dénonce un modèle touristique qui ne profite qu'à une poignée d'investisseurs, à l'opposé des arguments défendus par le ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Naina Anjantitoaina.
L'idée, c'est de pouvoir équilibrer un développement qui s'appuie sur des gros investissements, où il va y avoir du revenu, où il va y avoir de la taxe pour le pays, avec des droits d'occupants qui sont là depuis longtemps. C'est justement dans cette volonté que l'on doit faire des relevés topographiques, on doit recenser les gens, les cultures, les habitations, ainsi de suite, pour que l'opérateur privé respecte ses droits.
Non loin de Nosy Sakatia, des habitants de l'île de Nosy Mitsu craignent eux aussi de perdre leurs terres depuis que l'État a lancé en 2022 un appel aux investisseurs pour y construire un hôtel de luxe. Guillaume Fabrion, Tananarive, RFI.
Les touristes attendus à Osaka, au Japon, où vient de s'ouvrir l'exposition universelle, 160 pays et régions y participent. Côté France, le pavillon a été inauguré par l'actrice Sophie Marceau et le judoka Teddy Riner, un pavillon sous le signe de l'amour autour de la légende japonaise du fil rouge, l'union de deux êtres par un cordon magique et indestructible. C'est l'une des plus anciennes courses cyclistes et l'une des plus difficiles aussi. Le Paris-Roubaix, 259 km et beaucoup, beaucoup de pavés sur 54 km au moins. 122e édition. Après les femmes hier, place aux hommes qui sont sur la ligne de départ en ce moment à Compiègne où l'on vous retrouve en direct. Thomas de Saint-Léger, le top départ, c'est ça, c'est dans quelques secondes, hein, maintenant, quelle est l'ambiance ?
Un mélange, Charlotte, d'excitation et de tension. La réputation de l'enfer du Nord, de ses redoutables pavés, tout le monde la connaît. C'est une course pour brave, une course dangereuse et on s'inquiète aussi quand on lève les yeux vers le ciel bien, bien gris. Ce matin, il a plu en plus cette nuit et forcément, ça risque de compliquer encore la tâche des 175 coureurs. Que vont-ils trouver ? De la boue, peut-être, de la poussière, c'est sûr, du vent, ça aussi, c'est sûr. Et je vous le disais, on sent que ça chauffe vraiment sous les casques de ces coureurs qui sont alignés sous l'arche de départ. On est à quelques secondes. Le double tenant du titre, Mathieu Van Der Poel, va venir se placer en tête de ce peloton. Non loin de lui, il y aura son grand rival du jour, Tadej Pogacar, le Slovène, le vainqueur du Tour de France, le champion du monde, qui se lance pour la première fois à l'assaut des pavés de Paris-Roubaix. Mais les pavés, finalement, on les trouvera un peu plus tard, hein, dans quelques heures, puisque c'est après 100 km environ de course que les coureurs affronteront le premier secteur.
Thomas de Saint-Léger en direct de Compiègne pour ce début du Paris-Roubaix. Homme dans l'enfer du Nord, on vous retrouve tout à l'heure bien sûr. Et puis le Kenyan Bernard Biwott a remporté son deuxième marathon de Paris. C'était tout à l'heure, le coureur de 22 ans s'est imposé en 2h05 et 25 secondes. Côté femme, c'est l'Éthiopienne Bedatou Irpa qui s'est imposée au sprint sprint en 2h20 et 45 secondes. 11h10, ici à Paris.